Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'écoute de Radio Campus. Vous êtes à l'écoute donc de cette radio qui chaque mercredi vous propose un magazine consacré à l'Université de Lille, Campus Lille Info, de 16h à 16h30. Aujourd'hui c'est un jour très particulier, nous sommes le mercredi 14 février et vous l'avez peut-être déjà remarqué, entendu, quelque chose se passe aujourd'hui. Et oui, effectivement, aujourd'hui c'est la Saint Valentin. Ah oui, on en parle beaucoup, ça fait un peu le buzz sur tous les réseaux sociaux, on en voit dans voilà des affiches dans les rues, on attire le client, etc. Aujourd'hui, eh bien, on va traiter de ce thème, mais sous l'autre angle, un autre angle. On va traiter non pas sur l'amour du côté du physique ou de la physique, mais du côté de la chimie, avec aujourd'hui Monsieur Bernard Sablonnière, qui est professeur de médecine et chercheur à l'INSERM, spécialiste des maladies neurodégénératives et qui a réalisé un ouvrage qui s'appelle « La chimie des sentiments » et un livre donc qui est tout à fait opportun, qu'il est tout à fait opportun de présenter aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de vous dire bonjour, Monsieur Bernard Sablonnière, bonjour.
Bonjour.
Alors, un livre évidemment de spécialiste, un livre de chercheur, un livre peut-être de médecine, en tout cas c'est un livre qui aborde le thème du comportement amoureux d'une autre manière que ce qu'on peut en général en entendre ou le lire dans la presse habituelle.
Oui, alors les différentes étapes du comportement amoureux, c'est compliqué chez l'homme. Parce qu'évidemment, on ne se rencontre pas comme ça tout de suite pour pouvoir, je dirais, faire un plan de reproduction. Donc l'amour a été façonné à la fois par le développement du cerveau animal, avec toutes les pulsions qu'on peut imaginer derrière. Mais au-delà de ça, on a le cerveau des émotions, on a le cerveau de la volonté qui est très développé chez l'homme et qui a complètement modifié, façonné le comportement amoureux pour qu'il devienne extrêmement humain.
Alors est-ce qu'on peut dire que l'homme est conditionné par sa chimie ?
Alors conditionné, j'irai pas jusque-là dans tous ces comportements, mais il y a un certain nombre de comportements essentiels, comme l'appétit, la soif, aussi le comportement amoureux, qui est quand même régulé par un certain nombre de clés chimiques, des neurotransmetteurs, il n'y en a pas beaucoup, 3 ou 4, qui expliquent à peu près toutes les phases d'activation des réseaux de neurones qui vont s'activer dans le comportement amoureux.
Et évidemment, sans cette logique, il n'y aura pas de vie ou de survie.
Exactement.
Donc c'est quelque chose de fondamental.
C'est fondamental ce comportement, sinon à terme on ne pourrait pas se reproduire.
Voilà, donc les grandes clés, est-ce qu'on peut dire les grandes énigmes encore de ce 21e siècle dans ces recherches que vous faites ?
Énigmes, oui, parce qu'on ne connaît pas tout. On peut dire qu'à partir des années 70-80, c'était la découverte des clés chimiques, ces fameux neurotransmetteurs qui activent un certain nombre de circuits de neurones. Et puis à partir des années 90, et encore on est en plein dedans à l'heure actuelle, c'est le développement de l'imagerie cérébrale qui fait beaucoup de progrès et qui va déboucher aussi sur des progrès sur l'enregistrement des ondes cérébrales et la façon dont les circuits se mettent en cohérence en quelque sorte. Et des chercheurs récemment ont montré, mais pour l'instant chez des petits animaux, chez des rongeurs, qu'effectivement, entre deux rongeurs qui se mettent en couple, il y avait une cohérence dans le rythme des circuits cérébraux qui fait que l'un est perçu comme objet de désir et l'autre comme récompense.
Alors, est-ce qu'on peut dire que l'homme est programmé à partir d'un certain âge pour entrer dans une phase qui est une phase active, celle peut-être de l'attirance ou de la recherche de l'autre, de l'altérité, mais vue du côté plutôt sexuel, et un moment où tout cela, non pas disparaît, mais se transforme, peut-être on parlera de ça aussi.
Oui, alors le début est bien connu, c'est au moment du début de la puberté, où il y a deux hormones essentielles qui vont contribuer à l'envie de s'intéresser à l'autre sexe. C'est la dopamine dans le cerveau qui règle tous les désirs qui existent déjà bien sûr chez l'enfant. Mais apparaît à la puberté les stéroïdes sexuels, c'est-à-dire essentiellement la testostérone. Dans les deux sexes d'ailleurs, puisque même la femme produit un petit peu de testostérone, ce qui va réguler sa libido.
Donc certains sont plus ou moins, on va dire, équipés en testostérone. Certains en rajoutent un peu parfois, sous prescription médicale ou non. Est-ce que c'est réellement quelque chose d'essentiel et est-ce qu'il y a, de ce point de vue, des inégalités entre les hommes ?
Probablement, mais c'est plus complexe que ça, parce que le cerveau n'est pas un sac qui reçoit une quantité X ou Y de testostérone. La testostérone agit sur des récepteurs, est précisément régulée, fabriquée, transportée au niveau du cerveau. Et s'il existe des dérèglements avec des comportements d'addiction au sexe ou d'hypersexualité, c'est plutôt lié à certaines anomalies de régulation de ces circuits plutôt qu'au taux de production réel de testostérone.
Quand on parle beaucoup actuellement de harcèlement, est-ce que ceux qui sont victimes de ce harcèlement sont victimes de gens qui sont suréquipés ? En testostérone.
Pas forcément suréquipés, mais je dirais plutôt que leurs circuits cérébraux, notamment les circuits émotionnels, les circuits de l'interdit, il existe des circuits de l'interdit dans le cerveau, sont peut-être pas précisément éduqués ou mal éduqués chez ces individus.
Voilà, donc ce n'est pas une circonstance atténuante.
Non.
Alors, donc on va reprendre un petit peu cette idée hein, que l'attirance, c'est quelque chose de... certainement naturel, ça fait partie des cycles. Il y a aussi l'attachement, peut-être que vous ferez une différence entre les deux.
Oui, bien sûr. L'attirance, bien sûr, si on parle de l'attirance de l'autre sexe, bon, c'est ce circuit désir-récompense. Et si on veut obtenir le plaisir de la rencontre à deux, qui évoluera probablement vers le plaisir de la relation sexuelle, il faut une phase de désir. Dans cette phase de désir, le cerveau va activer certaines hormones du stress, comme l'adrénaline, qui fait qu'on va être très réceptif à l'autre. On va percevoir tous ses traits du visage, le timbre de sa voix, l'odeur, etc. Et ça va mettre en activité une grande partie du cerveau, et ces circuits vont renforcer le désir. Donc après cette phase de stress qui nous permet de rentrer dans l'intimité de l'autre, on a le désir qui est décuplé. Et là, c'est la dopamine, un véritable clé chimique du désir dans le cerveau, qui nous force à aller jusqu'au bout et à vouloir, bien sûr, recueillir la récompense de cette rencontre.
Alors, est-ce que l'attachement qui suit parfois ces périodes d'attirance plus ou moins longues, cet attachement peut être lié ou non à une période d'attirance qui a été riche et dont on a le souvenir vif?
Oui, l'attachement, c'est la deuxième phase de l'amour. Après l'amour de désir rapide, l'amour passionnel, on a chez l'homme, pendant pas mal d'années, probablement plus de 3 ou 4 ans, ce qu'on appelle cet amour d'attachement qui peut perdurer des dizaines et des dizaines d'années chez certains et qu'on peut renforcer au fur et à mesure et qui met en jeu l'ocytocine. Alors l'ocytocine, c'est la véritable clé chimique cérébrale, l'hormone, si vous voulez, cérébrale de l'attachement. Parce qu'elle va favoriser la perception d'une récompense qui ne dépend pas forcément d'une réactivation d'un désir important. Et de façon intéressante, cette ocytocine va être libérée davantage dans le cerveau et recueillie dans des récepteurs du cerveau par la simple bonne entente, la tendresse, la confiance en l'autre, qu'on appelle aussi l'empathie.
Et la part donc, on va dire de subjectif ou d'objectif, mais ce n'est pas vraiment ça la question, la part d'intervention possible sur le cours de sa vie ou de la vie d'un couple, puisque là, visiblement, on est quand même pris, j'allais dire, à la gorge par un certain nombre d'hormones.
Oui, alors ces hormones ne font pas tout. Hein. Elles vont commander, réguler un certain nombre de comportements. Alors il peut exister des dérèglements dans ces systèmes, mais ils sont quand même somme toute assez rares. Je crois que c'est plutôt la façon dont on a perçu ces comportements de désir de l'autre, de rencontre avec l'autre et de perception de récompense face à la bonne entente, l'amitié, voire l'amour avec quelqu'un d'autre, qu'on arrive à façonner des comportements futurs. Et finalement, les troubles relationnels qui sont bien sûr traités par les neuropsychologues, voire les psychiatres, ça consiste finalement à rééduquer ces comportements pour qu'ils reviennent finalement à des activités, un déroulement qui soit, je dirais pas dans le terme de la normalité, mais qui soit vécu par l'autre comme quelque chose de plus normal et avec un circuit désir-plaisir qui fonctionne à nouveau, je dirais, à peu près normalement et pas dans l'excès, soit dans l'excès de la passion, soit dans l'excès de la perception de la récompense. Il ne faut pas oublier que l'amour, c'est une véritable addiction. Et d'ailleurs, Freud l'avait très bien compris, puisqu'il avait écrit à l'un de ses collègues médecins qu'il existe une seule substance qui reste à découvrir et qui n'a rien à voir avec nos drogues et nos substituts, une seule substance que l'addiction à l'amour procure. Et cette substance qui a été découverte quelques années plus tard, après la mort de Freud, c'est effectivement la dopamine.
Alors, cette dopamine, elle fait partie de la chimie, pas seulement des sentiments d'ailleurs.
Absolument. Alors, ce que les gens connaissent plutôt sur la dopamine, c'est le fait que dans une autre région du cerveau, une région du cerveau plus postérieure, elle régule le comportement moteur. Et on sait que les déficits en dopamine s'observent chez les malades atteints de maladie de Parkinson.
Alors, cette dopamine aussi, on la retrouve dans le cadre d'addiction, par exemple, à des jeux, à des tablettes, à des choses comme
Absolument.
Ça.
Absolument. C'est vraiment la clé chimique qui active le circuit désir-récompense. Donc, quelle que soit la forme de désir ou de récompense, l'activation des réseaux fonctionne de la même façon. Que ce soit pour la cocaïne, une belle voiture, un acte amoureux, c'est le même circuit qui s'active et on en a la preuve maintenant par justement l'imagerie cérébrale.
Alors ça peut quand même faire craindre pour l'avenir, puisque le fait qu'on trouve de la dopamine sous d'autres formes que ce qui est amené par l'amour ou les sentiments ou les situations de ce type-là, relationnelles, un jour peut-être ce qu'on vivra au travers des jeux, des choses un peu interactives comme ça, mais très, très, très sophistiquées et qui n'ont rien à voir avec la nature, fera qu'on se privera peut-être de plaisir, de charme habituel.
Alors c'est plus complexe que ça. Alors la dopamine en fait ne rentre pas dans le cerveau, mais comme elle va ouvrir une espèce de serrure, un récepteur, qui est ce récepteur de la dopamine, les pharmacologues connaissent déjà des substances qui peuvent remplacer cette clé naturelle et se comporter comme des fausses clés qui vont donc ouvrir ces récepteurs. C'est ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques. Alors, certains sont déjà utilisés, je dirais, dans deux types de maladies, si on peut en parler un peu ici. Premier type, c'est le syndrome hyperactif de l'enfant ou de l'adolescent, qui est peut-être plus fréquent aux États-Unis qu'en France, où finalement le circuit désir-récompense est dérégulé. C'est-à-dire l'enfant est hyperactif parce qu'il change toujours d'objet de désir. Et dès qu'il a sa récompense, il faut tout de suite qu'il réactive ce circuit. Donc on peut réguler ce circuit avec des substances médicamenteuses qui le régulent. Et le deuxième exemple, c'est dans la maladie de Parkinson, où au lieu de donner un précurseur de la dopamine, on peut donner ces agonistes dopaminergiques qui vont réactiver les mouvements et qui peuvent corriger assez bien, d'ailleurs, les troubles de la maladie de Parkinson. Mais les neurologues connaissent les excès de ces médicaments, notamment dans la maladie de Parkinson, où finalement les malades marchent mieux, mais aussi ils dépensent mieux, où ils deviennent plus amoureux. Donc effectivement, ça fonctionne.
Alors c'est vrai que la testostérone n'est pas tout à fait la même chose hein, que la dopamine et qu'on peut garder de la dopamine, le besoin aussi de dopamine tout au long d'une vie.
Oui, alors c'est un peu la dissociation entre le désir d'amour émotionnel, avec toutes les représentations de la mémoire qu'on en a, et puis simplement l'acte sexuel. Où effectivement, au fur et à mesure des années, la baisse du taux de testostérone va ralentir la libido, mais ne va pas ralentir l'envie d'être amoureux, qui, elle, est essentiellement déterminée par les circuits régulés par la dopamine.
Est-ce qu'on peut vivre sans être amoureux ou sans avoir ces impressions ?
C'est souvent la question qu'on pose. Oui, effectivement, on peut. Alors, c'est dans la façon dont les circuits cérébraux vont subir cette maturation, notamment pendant l'adolescence et avant la puberté, où finalement, à force d'être éduqué dans un milieu riche en interdits, eh bien, le cerveau préfrontal, notamment celui qui régule, je dirais, le passage à l'acte, c'est-à-dire même si on a l'envie d'eux, le cerveau volontaire peut bloquer cette envie de passage à l'acte. Que ce soit simplement un simple désir relationnel. Et chez certains, ce blocage fonctionne très bien, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas exprimer ce désir dans ce comportement.
Alors, c'est vrai que la notion d'interdit, moi je fais partie d'une génération assez ancienne et on avait beaucoup d'interdits à l'époque. Il n'est pas dit qu'on avait d'ailleurs moins de plaisir. Est-ce que vous voyez un rapport entre les deux ?
Ça, c'est peut-être plus complexe. Il faudrait peut-être poser la question vraiment aux neuropsychologues et aux psychiatres. C'est-à-dire comment le cerveau arrive à percevoir ce dilemme un peu difficile entre l'interdit et le passage à l'acte. Alors, on sait que dans l'IRM, on commence à connaître dans le cerveau des régions un petit peu qui régulent le bien et le mal, hein, un peu comme le diable et l'ange dans Tintin et Milou. On commence à connaître un peu ces régions cérébrales qui s'opposent dans le passage à l'acte volontaire.
Alors, quand il n'y a pas ou plus beaucoup d'interdits, est-ce que l'abondance peut nuire, pour le coup, au sentiment ?
Alors ça, c'est un point de vue bien sûr intéressant. On dit souvent cet adage « l'habitude émousse le sentiment ». Effectivement, à force de réactiver le même circuit désir-plaisir, le cerveau mémorise le plaisir obtenu. Et finalement, si on réactive toujours le même circuit, le cerveau va nous dire « ah bah tu connais déjà, puisque ça donne telle intensité de plaisir ». Et c'est pour ça qu'assez souvent, on a envie de recommencer des expériences différentes pour pouvoir finalement s'enrichir d'une expérience de plaisir qui sera différente par rapport à ce qu'on a déjà vécu.
Alors vous parliez d'intensité, alors est-ce que l'intensité, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a connue, on en veut toujours plus, ou est-ce qu'on peut changer les formes qui font que cette intensité se répartit sur d'autres domaines tout aussi intéressants et à explorer ?
C'est vraiment les deux. C'est compliqué, ça, à explorer au niveau du cerveau. Mais je pense que c'est pas encore du domaine biologique ou du domaine de l'exploration des ondes cérébrales. C'est encore plus actuellement du domaine neuropsychologique. Mais c'est probablement comme ça que ça fonctionne. Soit on veut revivre ou réactiver les mêmes circuits désir-récompense avec les mêmes objets de désir et on en veut toujours plus. Et ça, c'est peut-être assez difficile, soit il faut qu'on change ses comportements de désir.
Alors, on est un peu matraqué par la publicité, il faut quand même dire les choses, dans notre environnement. Hein. Est-ce que cette publicité est ciblée sur l'effet dopamine, par exemple ?
Alors, moi, je dirais que la publicité à l'heure actuelle est plus pour stimuler effectivement tout un tas de désirs différents, mais finalement avec beaucoup de désirs sans effort. Parce que ce qui va sculpter, ce qui va réguler mieux le circuit désir-plaisir, bon, c'est un peu complexe, c'est que si vous avez le plaisir immédiatement, sans effort, sans recherche, bah finalement, ces circuits cérébraux vont se lasser très vite et on va toujours vouloir recommencer pour réappuyer sur ce bouton qui procure le plaisir.
C'est un peu Don Juan ?
Probablement.
Voilà. On va parler maintenant des personnes âgées qui sont en EHPAD, par exemple, et qui, elles, ont encore une vie intense, pas forcément de l'amour directement, quoique, il paraît qu'en EHPAD aussi, on peut être amoureux, tomber amoureux de personnes très âgées également. Mais on a encore ce souvenir parfois vivace, puisque les personnes âgées ont vraiment un souvenir incroyable de leur jeunesse. Ça reste très présent, ça. Est-ce que cette persistance du souvenir de l'état de jeunesse, c'est quelque chose qui a été fait aussi pour nous aider à vivre et à vieillir.
Oui, c'est un peu ça, parce que toute expérience de circuit désir-plaisir pour lequel le plaisir a été vécu avec beaucoup d'intensité, on sait que ces expériences vont entraîner des modifications du rythme des ondes cérébrales et vont permettre de mettre en communication plein de régions différentes du cerveau qui font appel à des faits mémorisés qui sont cachés un peu à droite à gauche dans nos réseaux cérébraux. Donc on les réactive, on les met en commun et finalement ça donne un tableau, ça donne une image, ça donne un événement mémorisé dans toute sa splendeur et on s'en souvient très bien, on le réactive facilement parce qu'on voudrait en revivre un identique.
Voilà, et même si on est coupé du monde extérieur, on peut revivre sa vie dans un monde un peu clos.
Probablement, oui.
Alors, on va revenir, Bernard Sablonnière, à l'ouvrage qui est l'occasion de vous accueillir aussi aujourd'hui. C'est La chimie des sentiments, donc un livre qui est paru en 2015.
Chez Odile Jacob, oui.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut y trouver qui ne serait pas évoqué encore jusque-là, et pour donner aux auditeurs aussi l'appétit d'y goûter, quitte à se créer leur propre dopamine avec leur lecture ?
Bien sûr. Alors, j'évoque un peu quelques aspects de la chimie du cerveau qui sont un petit peu plus originaux, comme la perception de ce plaisir si intense lors du baiser amoureux. notamment ce qu'on appelle le French kiss, qui est dû à l'effet d'une des hormones du plaisir que peu de gens connaissent, qui s'appelle l'anandamide, et qui va activer les perceptions sensorielles, notamment au niveau gustatif. C'est aussi l'une des hormones de l'appétit. Et d'ailleurs, c'est assez curieux que souvent, lorsqu'un couple se sent bien, on commence déjà par un bon repas, n'est-ce pas ? Donc, ces plaisirs gustatifs, c'est important.
Alors, est-ce que c'est un hasard si, en France, on aime bien la cuisine et il y a le French kiss ?
Ça, je ne peux pas répondre. Alors, ce que je parle aussi, peut-être plus à la fin du livre, c'est effectivement une position un peu plus psychologique, un peu plus psychosociétale. Et effectivement, les anthropologues ont regardé si le comportement amoureux était le même dans toutes les ethnies et toutes les sociétés. Et effectivement, toutes les étapes sont les mêmes. Donc, c'est bien un comportement basique qui est bien ancré dans le cerveau émotionnel et dans le cerveau frontal chez l'homme.
Alors, on parle de l'homme. Tout à l'heure, vous avez parlé de petits animaux sur lesquels vous faites des expériences. J'espère que vous ne leur faites que du bien.
C'est pas moi qui fais ces expériences. Je les relate, bien sûr, dans mon livre. Le campagnol des prairies, qui effectivement vit en couple avec une très bonne fidélité par rapport à son cousin, qui est le campagnol des montagnes, qui est beaucoup plus volage. Et les chercheurs avaient montré déjà, il y a une quarantaine d'années, que le campagnol des prairies, donc très fidèle, avait un équipement récepteur de l'ocytocine qui était très élevé. Alors maintenant, ça débouche sur des recherches plus intéressantes chez l'homme, où on peut doser l'ocytocine dans le sang, et on arrive à se rendre compte que chez les gens qui se séparent, le taux d'ocytocine baisse. Et dès qu'ils reprennent une relation d'abord d'amitié, et pourquoi pas amoureuse en refaisant un couple, eh bien le taux d'ocytocine remonte. Donc même si ce n'est pas une chimie extrêmement précise, c'est un des indicateurs du fonctionnement de ces circuits.
Quand on remarque les rites amoureux des animaux, on se dit que c'est incroyable cette diversité des rites, des espèces animales, qu'elles ont chacune, ces espèces, des codes différents, des comportements amoureux. Et voilà, tout ça, c'est une grande diversité, une grande richesse, mais en même temps, c'est très sélectif, c'est-à-dire que chaque espèce va se confronter à l'équivalent de l'autre côté de la même espèce de façon très très précise.
Oui, alors c'est amusant dans ce cadre, puisque bon, on n'a pas beaucoup parlé de l'attirance, mais chez beaucoup d'animaux, l'attirance est réglée par ce qu'on appelle des phéromones. Alors les phéromones, en clair, sont des substances chimiques qui vont activer le cerveau et qui ne sont pas perçues comme des odeurs. Alors ces odeurs qui peuvent donc donner des phéromones, des odeurs qui ont perdu un peu leur sens olfactif. Ça fonctionne très bien chez les animaux, ça fonctionne chez les fourmis. Chez l'homme, il y a un groupe de chercheurs dans les années 2000 qui a essayé de retrouver ça. Ils ont fait des expériences intéressantes. Ils ont trouvé des petits dérivés d'hormones sexuelles qui n'ont pas d'odeur, qui sont différentes bien sûr chez l'homme et chez la femme. Et ils ont mélangé ces petites substances dans une espèce de pommade qu'on met au niveau sous le nez, là, entre la lèvre supérieure et le nez. On se caresse avec cette pommade-là, on se masse avec cette pommade-là. Et après, ils ont fait des expériences de speed dating. Et ils ont montré que le succès aux rencontres de speed dating marchait mieux chez les gens qui avaient pris un petit peu cette pommade qui contient ces phéromones. Donc ça veut dire que les phéromones contribuent. Mais évidemment, le succès n'est pas à 100%. Donc elle contribue de façon inconsciente probablement au fonctionnement de la relation qui devient positive. Et chez les animaux, c'est très curieux parce que certaines espèces, comme vous disiez, qui se reconnaissent bien sûr en couple de la même espèce, utilisent une phéromone et des espèces très, très éloignées utilisent la même. Et ça a été prouvé, ça va vous faire tout à fait rigolé, entre la pierrite du chou, qui est ce petit papillon blanc, qui utilise exactement la même substance, la même phéromone chimique, qui est le 7-2-décennyl acétate, que l'éléphant d'Afrique. Il y a quand même peu de chances que les deux espèces se trompent. Hein.
Alors, il y a aussi, par rapport aux phéromones, hein, une utilisation un peu décalée, c'est comment traiter de l'envahissement de certains insectes qu'on dit nuisibles, en attirant les femelles ou les mâles uniquement, et donc où il n'y a plus assez de population de l'autre sexe pour faire des couples.
Oui, alors effectivement, on peut utiliser, c'est connu maintenant dans ce monde des insectes, hein, on peut utiliser des leurres qui permettent soit de favoriser l'attirance entre les sexes, soit au contraire de repousser l'un des deux sexes. Mais bon, je pense que ces sciences-là nous éloignent quand même un peu du comportement amoureux de l'homme.
Bon, on ne peut pas imaginer une société où on crée pour faire des leurres à des gens pour qu'ils ne se reproduisent pas. Quand
même. Non, c'est ce que je disais au départ. Le cerveau humain est devenu beaucoup plus complexe. Donc, pour favoriser la relation amoureuse et jusqu'à l'acte amoureux, on a développé ce cerveau émotionnel, hein, qui est bien décrit dans les histoires d'amour sous toute forme d'art, hein, que ce soit l'art écrit, les poèmes, etc. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme, bien sûr, qu'une simple relation chimique qu'on peut imaginer chez deux insectes.
Bon, on peut encore nous croire supérieurs.
Non seulement on peut croire qu'on est supérieur, tout au moins dans ces comportements-là, mais surtout que ces comportements restent encore très complexes. Et malgré le peu de choses que j'ai expliquées, il reste encore beaucoup de choses, bien sûr, à découvrir.
Il y a des gens qui rejettent l'idée que l'homme soit supérieur à d'autres animaux.
Oui, ça dépend sur quels critères de supériorité on regarde, effectivement.
Voilà, mais ce n'est pas l'objet de cette émission, nous y reviendrons peut-être. Donc, on peut peut-être maintenant, Bernard Sablonnière, présenter peut-être vos travaux en cours et sur quoi ils vont déboucher d'un point de vue bibliographique ?
Oui, alors c'est mes travaux d'écrivain, hein. C'est pas les recherches que je fais dans notre équipe qui concernent pas du tout ces domaines-là. Bah oui, le prochain livre concernera la longévité, donc et se traduira par un prochain ouvrage chez Odile Jacob qui s'appelle « Les espoirs d'une longue et bonne vie » où j'essaye d'aborder effectivement les mécanismes qui font qu'on aurait envie de vivre en meilleure santé, avec plus de désir, avec une santé conservée, en n'ayant pas trop peur de la maladie, mais c'est une autre histoire.
Bon, bah j'espère que je serai encore là pour vous accueillir, pour présenter ce livre.
Merci beaucoup.
Merci Bernard Sablonnière.